direction de toute l'église d'Arnoville. Et puis aussi un message plus personnel. Merci à tous pour vos messages suite à la naissance de notre petit garçon. Il va très bien, on va très bien aussi. Et vous avez de la chance puisqu'il nous a laissé dormir cette nuit, alors je suis en forme. Je pense que je vais pouvoir mieux parler que si on avait passé une nuit plus compliquée. J'aimerais aborder ce matin, avec ce passage que l'on va lire dans quelques instants, un thème qui se résume en un mot. Et c'est un mot qui parfois, dans certaines églises, alors pas chez nous, rassurez-vous, hein, mais dans certaines églises, passe un peu pour un gros mot. Pour un gros mot parce que quand on en parle, il nous fait peur. C'est l'évangélisation. Et quand on aborde le thème de l'évangélisation, parfois ça suscite une levée de boucliers automatique chez certains. On parle d'évangélisation et tout de suite, on a peur de ne pas savoir comment faire. On a peur d'être trop timide. Alors on dit non, c'est pas pour moi. L'évangélisation, c'est pas pour moi. Il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui sont très bien pour ça, qui sont doués pour ça, mais moi non. Parce que quand on parle de ça, on s'imagine peut-être en train de sortir dans la rue et puis d'aborder un inconnu pour lui parler de Jésus. Et je suis d'accord avec vous, ça peut être effrayant, cette perspective. Et pourtant, la réalité qui est derrière ce mot, l'évangélisation, c'est une réalité qui est à la fois biblique et qui a une importance capitale. Parce que quand on parle d'évangélisation, on parle de ne pas garder égoïstement pour nous le don que Dieu nous a fait, le don de la grâce. Ce don qui est gratuit, on parle de ne pas le garder pour nous, mais de chercher à le faire connaître au plus grand nombre, à tous ceux qui nous entourent, pour qu'à leur tour, eux aussi, ils puissent connaître cette grâce, ils puissent l'expérimenter, et ils puissent aussi connaître la réconciliation avec leur Créateur. Alors j'aimerais que l'on lise ce texte de 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Je vais le lire dans la version Summer, vous verrez quelques différences avec les Bibles que vous avez sous les yeux, mais ces différences peuvent aussi éclairer le texte. Donc, 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ » et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Alors avant effectivement d'aller au cœur du sujet et de parler de comment répondre cette bonne nouvelle, puisque c'est le sens premier du mot évangile en grec, bonne nouvelle, avant de voir comment répandre cette bonne nouvelle autour de nous, j'aimerais d'abord qu'on l'on regarde ce que cette bonne nouvelle provoque en nous. Pourquoi est-ce qu'on voudrait la partager? Pourquoi est-ce qu'on voudrait que tout le monde vive la même chose que nous? Il faut d'abord savoir ce que cette bonne nouvelle provoque en nous. Premièrement, cette bonne nouvelle, elle fait de nous une nouvelle créature. Vous avez vu que c'est un peu différent dans la version que j'ai lue, mais dans la version seconde, c'est « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». L'Évangile fait de nous des nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ça qui se passe. Lorsqu'on choisit de soumettre notre vie à Jésus, lorsqu'on choisit que c'est lui qui va tenir les rênes de nos vies, lorsqu'on a choisi de vivre notre vie en Christ, eh bien nous sommes devenus une nouvelle créature. Extérieurement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais intérieurement, nous sommes une nouvelle créature. Et ça veut dire que tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu penser, dire avant ce jour-là, ça ne compte plus. Nous sommes un nouvel être qui repart à zéro. Et cela, ça veut dire, premièrement, que nous sommes pardonnés. La bonne nouvelle, l'évangile, nous apporte un message, et le texte le dit, de réconciliation. Là où le péché nous séparait de Dieu, maintenant nous sommes réconciliés et nous sommes pardonnés. Et deuxièmement, ça veut dire que tout notre passé est effacé. Alors évidemment, il y a des choses très bien dans notre passé. Tout ça n'est pas effacé. Quand on devient chrétien, ça ne veut pas dire que tous les bons souvenirs qu'on avait avant sont effacés. Hein. Ce n'est pas un lavage de cerveau. Mais cela veut dire que tout ce qu'on l'on a pu faire, qui avait des conséquences négatives vis-à-vis de Dieu, est effacé. Mais il y a une chose très importante à se souvenir aussi, c'est que si notre péché est effacé, les conséquences du péché ne sont pas pour autant effacées. Et j'aimerais vous rappeler l'exemple de David à ce sujet, le roi David, un grand roi. Dans les Actes des Apôtres, on peut lire que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, dans son histoire, à un moment, il a chuté, il a péché. Il a commis l'adultère avec une femme. Pour couvrir son péché, il a envoyé le mari au casse-pipe, littéralement. Il l'a envoyé se faire tuer. Et ensuite, il s'est repenti. Il a demandé pardon. Le péché a été effacé. Mais la conséquence du péché est restée. Le fils qui était né de cette union adultère, eh bien, Dieu l'a fait mourir. Nos péchés sont effacés, mais les conséquences de nos péchés restent. Et parfois, on va avoir encore à gérer les conséquences de nos péchés anciens, même encore aujourd'hui. Mais je crois que c'est aussi la marque d'un chrétien qui assume qui il est. La marque d'une nouvelle créature en Christ. De dire, oui, j'ai fait ça, maintenant j'ai changé. Maintenant Dieu m'a transformé. Et maintenant ces conséquences, je vais les assumer et je vais les affronter. Deuxièmement, le deuxième effet que cette bonne nouvelle a en nous, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu. Par ce don de Dieu, Dieu nous offre son pardon. Et c'est un pardon par grâce. Et c'est grâce à ça que l'on peut être réconcilié avec lui. Comme je le disais tout à l'heure, le péché nous empêchait d'avoir cette relation avec lui. Parce que Dieu ne peut pas accepter quelque chose qui est marqué par le péché. Mais lorsque l'Évangile vient ôter le péché de nos vies, nous pouvons avoir cette relation avec Dieu. Et le péché n'a plus de pouvoir sur les domaines de notre vie où nous laissons Dieu agir. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'en tant que chrétien, on ne doit plus jamais fauter, ça serait l'idéal, mais c'est très loin de la réalité. Ce qui est important, c'est que ce péché-là ne peut plus nous détourner de la direction de Dieu, ne peut plus nous détourner de cette relation que l'on a avec Dieu, si cette relation est une vraie relation. Et c'est ce que Dieu veut, que cette relation soit une vraie relation. Et j'aime beaucoup ce mot de relation. Parce que quand j'ai une relation avec quelqu'un, et on le connaît tous, hein, cet exemple, quand on a des relations les uns avec les autres, ce sont des relations faites de discussions, ce sont des relations faites de petites intentions, des relations faites de parfois d'erreurs, parfois de disputes aussi. Mais si je veux entretenir une relation avec quelqu'un, je ne vais pas attendre que lui fasse toujours le premier pas. Je ne vais pas attendre que ce soit toujours lui qui m'appelle. Je ne vais pas attendre que ce soit toujours lui qui prenne des nouvelles. Mais je vais aussi faire l'effort. Et dans une relation, si c'est toujours la même personne qui prend l'initiative, mais l'autre va se fatiguer. Lorsque j'ai quitté Lyon pour faire mes études, maintenant pour être pasteur, j'ai laissé des relations derrière moi. Si dans ces relations, c'est toujours le même qui fait l'effort de décrocher le téléphone, au bout d'un moment, la relation s'essouffle. Et je crois qu'avec Dieu, c'est pareil. Et cette relation, elle est importante et il est important pour nous de l'entretenir. Décrocher le téléphone. Et quand on décroche le téléphone avec Dieu, hein, le téléphone a un aspect différent, mais l'effet est le même. Passer du temps avec Dieu. Parfois, on se plaint de ne pas entendre Dieu. Mais est-ce qu'on fait attention au temps qu'on passe à l'écouter réellement? Tout cela doit nous pousser à être des ambassadeurs pour Christ. Le mot, je le trouve très beau, j'aimerais bien l'avoir trouvé, mais il est dans le texte. Et je ne l'invente pas. Des ambassadeurs pour Christ. Et ce mot d'ambassadeur, je le trouve vraiment très fort, très parlant, parce que aujourd'hui encore, il y a des ambassadeurs et on voit bien ce qu'un ambassadeur fait. Un ambassadeur, il ne reste pas dans son pays d'origine. Quand un ambassadeur prend ses fonctions, il est envoyé dans un autre pays pour représenter son pays. Il est envoyé au loin pour représenter quelqu'un d'autre que lui. Un ambassadeur, c'est un envoyé. C'est un envoyé qui représente quelqu'un d'autre. Et les premiers ambassadeurs de Christ, ce sont les apôtres. Les apôtres qui ont été envoyés par le Christ lui-même aux quatre coins du monde pour le représenter, pour apporter son message de partout. Et la mission que Jésus nous confie, à nous aussi, eh bien, c'est d'être des ambassadeurs, de partir pour représenter Jésus. Et je crois que parfois, les églises ont fait l'erreur de croire que si nous vivons notre foi bien comme il faut dans les murs de l'église, les gens allaient venir gentiment dans l'église pour se convertir. Et on aimerait bien ça, que tous les dimanches, on n'ait rien d'autre à faire que se réunir et vivre notre culte, et que les gens viennent, se mettent à genoux et se mettent à louer avec nous. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et je crois qu'il faut se demander comment on peut être des ambassadeurs. Comment on peut aller vers les gens qui nous entourent. Mais aller vers eux, ça prend des formes différentes. Parce que aller vers les gens qui nous entourent, parfois, on peut aller en restant où on est. C'est ça qui est beau. Une église qui décide de vivre pour les gens qui l'entourent, mais qui décide d'avoir des projets, qui décide de mettre en place des choses pour parler aux gens qui l'entourent. C'est une église qui va vers ceux qui l'entourent. C'est une église qui existe pour ceux qui l'entourent. Il y a une citation que j'ai retenue dans mes lectures au cours de mes études, et malheureusement j'ai oublié l'auteur, mais j'aime beaucoup cette citation, qui dit qu'une église n'est réellement mature que lorsqu'elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. Que l'Église existe pour les gens qui en font partie, c'est une évidence. Mais l'Église réellement mature, elle existe aussi pour ceux qui n'en font pas partie. Et je crois que l'Église réellement mature, sur cette terre, elle n'existe pas. Hein. Mais qu'on doit être en quête de maturité, en quête de faire exister nos Églises pour les gens qui n'en font pas encore partie. Ça, c'est un défi. Un défi que chacun doit se mettre en tête de relever, exister, que notre Église existe pour ceux qui n'en font pas partie. Et puis quand même, pour être des bons ambassadeurs, il faut être au contact. Il faut être au contact des gens vers qui on est envoyé. L'ambassadeur de France en Arménie ferait un très mauvais boulot s'il était tout le temps à Paris, parce qu'il est envoyé pour représenter la France auprès des Arméniens. Pour être de bons ambassadeurs, il faut être au contact des gens. Et là, c'est la question qui fâche, c'est la question qui fait peur à tous ceux qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, lèvent leur bouclier quand on parle d'évangélisation. Comment on fait ? Comment on fait pour créer un contact avec les gens et pour leur parler de l'évangile ? C'est difficile. C'est difficile. Et peut-être que certains pourraient répondre, mais moi, je ne suis pas à l'aise pour faire des rencontres. Moi, je ne suis pas à l'aise pour aborder des gens. Mais qui a dit que nous devions apporter l'évangile uniquement aux gens que l'on ne connaît pas? Qui a dit ça? Être au contact des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais c'est déjà ce qu'on fait tous les jours, chacun d'entre nous. Des personnes qui ne connaissent pas l'évangile, on en côtoie à longueur de journée dans toutes nos occupations. Et je suis sûr que si l'on devait en lister au moins 10 chacun, on n'aurait aucun souci. Des gens que l'on connaît et que l'on côtoie et qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais je crois que notre rôle d'ambassadeur, il doit s'exercer auprès d'eux en premier. Auprès de ces gens-là qui comptent pour nous. Auprès de ces gens-là avec qui le contact est déjà établi. Et là, la rencontre, elle n'est pas difficile à faire, elle vient toute seule. Parce que si nous sommes envoyés comme ambassadeurs du Christ auprès de ceux qui nous entourent, ben c'est d'abord les gens qui nous entourent de près. Et pour mes collègues, pour vos collègues, pour vos amis de cours, pour notre famille, qui peut être un meilleur témoin que nous-mêmes? Qui? Pour ma famille, qui peut être un meilleur témoin que moi-même? Auprès de ceux qui m'ont vu faire n'importe quoi pendant toute mon adolescence et qui voient qui je suis maintenant grâce à Dieu. Qui peut être un meilleur témoin que moi-même? Personne. Cette notion d'ambassadeur, elle est importante et il faut que nous la vivions. En arrêtant de croire qu'il y a des barrières qui sont difficiles et qui sont infranchissables. Je ne dis pas que ça va être facile de se mettre à témoigner de sa foi autour de nous, même avec les gens qu'on connaît. Mais c'est le champ d'action que Dieu nous donne. Parfois, on se dit, oh, je ne sais pas où agir, je ne sais pas où Dieu m'envoie. Et si Dieu t'envoyait simplement là où tu es déjà? Et si Dieu voulait que tu agisses simplement là où il t'a déjà placé? C'est déjà un bon début. Alors, que Dieu nous aide à vivre réellement et pleinement cette vie de nouvelle créature réconciliée avec Dieu. Que Dieu nous aide à être vraiment et pleinement des ambassadeurs qui n'ont pas honte du message que Dieu leur a confié, qui n'ont pas honte de la vie qu'ils vivent. Que Dieu fasse de nous des ambassadeurs qui vont au contact pour accomplir la mission que Dieu nous confie. Amen.
Merci Timothée pour cet exemple.